Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Écho de ma commune sur Radio Grand Ciel. Je reçois aujourd'hui Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loire et maire d'Annette, avec notre invité. Nous allons traiter de l'actualité politique et des enjeux à venir en ce début d'année. Olivier Marleix, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Grand Ciel.
Merci à vous.
On va revenir sur ce qui s'est passé début janvier, sur les attaques terroristes dont ont été victimes la France, Charlie Hebdo, la prise d'otage ensuite Porte de Vincennes. Comment est-ce que vous, déjà, vous avez vécu ces événements ?
Écoutez, comme tout le monde, je crois, avec beaucoup d'effroi lié à la violence de ces attentats, au fait que ça touchait des gens qui étaient... pour une partie d'entre eux, des gens très, très emblématiques, qu'on a des stars du dessin, de la caricature dans notre pays. Donc évidemment, ça nous a tous assez intimement, je dirais, touchés. Voilà. Et puis avec effroi aussi, parce que certes, il s'agit de terroristes, d'un terrorisme qui nous dépasse, qui n'est pas le seul fait de notre pays, mais aussi ce malaise que crée le fait que les auteurs de ces crimes, les frères Kouachi, Koulibaly, sont des Français, sont des gens qui ont grandi sur notre territoire, au milieu de nous, et qui aujourd'hui se sont laissés embarquer dans la folie.
Justement, le gouvernement se mobilise maintenant pour prendre des décisions pour lutter contre le terrorisme, en souhaitant l'isolement des détenus jugés extrémistes, la création aussi d'un fichier des personnes qui représentent une menace pour la France. Il y a le renforcement aussi des moyens du renseignement qui est prôné, et revoir le rythme de réduction des effectifs dans l'armée. Oui. Quelle est votre opinion là-dessus ?
Écoutez, mieux vaut tard que jamais, parce que toutes les mesures en matière de sécurité que vous évoquez sont des mesures qui ont été proposées pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 mois, lorsqu'on a examiné à l'Assemblée nationale un projet de loi sur le terrorisme qui était proposé par le gouvernement, que d'ailleurs l'UMP a voté. Mais à l'époque, le gouvernement y venait sur la pointe des pieds et a refusé de très nombreuses propositions qu'aujourd'hui il va, sous la contrainte, remettre à son compte. Et puis je reviens sur le fait que au-delà de ce débat qui est très récent, il y a quelques mois, sur tous ces sujets-là, jusqu'à présent, la majorité de la gauche, je dis bien la majorité, parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, était extrêmement frileuse, extrêmement prudente et extrêmement combative contre Nicolas Sarkozy à chaque fois que nous avons pris des mesures dans ce sens. Donc, mieux vaut tard que jamais. Bon, malheureusement, ce qui m'inquiète un petit peu, je crois que les observateurs, je disais le Monde d'hier par exemple, ne s'y trompent pas. Dès le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, qui a été applaudi unanimement par l'Assemblée nationale, on sentait un certain malaise à gauche. En clair, ce que le Premier ministre annonce, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait le Patriot Act aux États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre, c'est-à-dire des mesures d'exception pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire accepter qu'un certain nombre de libertés voient leur champ légèrement réduit, contrôlé, pour mieux nous garantir, mieux nous protéger. Eh bien, j'observais que en réponse immédiatement à ce qu'il a dit, alors évidemment avec des formes, avec etc., mais que ce soit le front de gauche ou les écologistes, on les sent entendre qui ne voulaient pas de Patriot Act. Enfin, on exprime très clairement d'ailleurs qu'ils ne voulaient pas de Patriot Act. Donc il y a déjà, dès le jour même de l'annonce, dès le jour du plus beau consensus à l'Assemblée depuis 1918, déjà on sent que la majorité n'est pas très à l'aise et pas très cohérente sur ce sujet-là. Après, je crois quand même que la gauche a la chance d'avoir Manuel Valls en ce moment à tête du gouvernement pour masquer un certain nombre de ces divisions qui sont réelles. C'est vrai sur les mesures de sécurité, c'est vrai, je dirais, plus fondamentalement sur les questions de lutte contre le djihadisme, de lutte contre le fanatisme musulman dans notre pays. Je retiens un élément qui n'est pas une anecdote, mais quand il y a, mais qui est assez marquant, je crois que c'est un marqueur politique. Quand il y a 3 ans, Nicolas Sarkozy, ou il y a 4 ans maintenant, maintenant a fait voter une loi interdisant le port de la burqa en France, partant du principe que mettre une femme sous cloche dans notre pays, a priori, ce n'était pas tout à fait compatible avec notre conception de la femme, avec les valeurs de la République. Eh bien, j'aurais vous signaler qu'il n'y a, à ma connaissance, que 17 ou 18, je ne sais plus exactement, mais c'est 17 ou 18 députés socialistes qui ont eu le courage de voter cette loi interdisant le port de la burqa en France. Manuel Valls en faisait partie. C'était assez courageux de sa part, puisqu'il est député d'une circonscription où il y a de nombreux de compatriotes musulmans. Donc, il n'a pas eu peur de l'amalgame. Il a su expliquer les choses. Il fait partie de ceux qui savent dire ce qui nous semble dans l'islam de France compatible avec les valeurs de la République et ce qui ne serait pas compatible. C'est pas du tout le cas de François Mitterrand, de François Hollande, pardon. François Hollande fait partie des députés qui, à l'époque, ont voté contre la loi interdisant la burqa. C'est-à-dire pour Monsieur Hollande, le port de la burqa, c'était pas un sujet gênant. Voilà, il y a une position courageuse sur ces sujets-là de l'UMP depuis de nombreuses années. Du Premier ministre Manuel Valls aujourd'hui, j'espère que Manuel Valls saura faire évoluer sa famille politique. J'ai surtout entendu le président de la République parler de terrorisme. Le président de la République a fait attention à ne jamais parler de l'islamisme, ne jamais parler des radicaux musulmans. Or, le problème, ce n'est pas celui d'un terrorisme abstrait. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est celui du fanatisme musulman et c'est là-dessus qu'il faut avoir des réponses.
Vous l'évoquez d'ailleurs, l'objet de la sécurité en France dans votre livre Sarkozy, La vérité c'est maintenant. Vous dites que c'est l'ancien président qui l'a remis dans le débat politique, public. On a le sentiment que ça a vraiment été délaissé auparavant par les différents gouvernements et que c'est devenu un sujet réservé au Front National. Aujourd'hui, qui profite en tout cas et qui est revendiqué par le Front National.
Oui, enfin, je ne sais pas si le Front National le revendique, mais en tout cas, il y a malheureusement, c'est pas dans le corpus idéologique du Parti Socialiste sur les questions de sécurité. Je crois qu'ils ont d'autres priorités. La campagne de François Hollande, c'était 60 000 emplois dans l'éducation nationale. Ça n'a jamais été les questions de sécurité, la priorité des priorités du Parti Socialiste. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, dès 2004, quand il est devenu ministre de l'Intérieur, a repris ces sujets-là à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'on revenait d'une période où il y avait eu, sous les années Jospin, un laisser-aller terrible, avec les 35 heures dans la police qui avaient fait un tort considérable, et une absence totale de priorité sur ces sujets-là. Donc la délinquance avait explosé pendant les 5 ans de Lionel Jospin de 17% dans notre pays. C'est vrai que Nicolas Sarkozy en a fait un sujet en plus un peu de démonstration de ce que pouvait être la volonté politique à l'œuvre. Et pendant les 5 années où il a été ministre de l'Intérieur et les 5 années où il a été président de la République, la délinquance a reculé chaque année dans notre pays. Les statistiques l'ont montré. Chaque année, il y a eu un recul, un reflux. Et au total, on a regagné tout le terrain qui avait été perdu dans les années Jospin. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel, je crois, pour le coup, l'UMP n'a pas vraiment de leçon à recevoir de la part du Front National. Je crois qu'on a un bilan dont nous devons assumer avec beaucoup de fierté.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une réponse qui doit être apportée par l'éducation, par la culture? Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, a parlé clairement d'un échec de l'éducation et de l'enseignement. Qu'est-ce que vous pensez?
Oui, vous mesurez quand même justement l'effet Valls sur ce gouvernement pour que Mme Vallaud-Belkacem vienne à reconnaître qu'il y avait un échec de l'éducation. Effectivement, c'est qu'ils ont compris que l'heure était grave et qu'il fallait peut-être se fier un peu plus à la lucidité toute personnelle de Manuel Valls sur ces sujets. Oui, évidemment, il y a cette affaire, elle a révélé quand même, je vous le disais, ce qui nous touche tous, touche tous nos compatriotes au plus profond d'eux-mêmes, c'est qu'il s'agit, ces attentats ont été comme M. Mera avant, il s'agit à chaque fois de jeunes Français. Mmh. On découvre aussi d'ailleurs que ce sont des jeunes Français convertis qui aujourd'hui jouent les coupeurs de tête. En Syrie, évidemment, tout ça est effrayant. Je crois que c'est évidemment ça qui touche tous les Français. Il y a, à l'évidence, quelque part, un échec massif, majeur, à tous les étages de notre politique dite d'intégration. Mmh. Voilà, alors la réponse elle est vaste. Ça ne se fera pas on ne changera pas les choses par un claquement de doigts. Il y a évidemment la question de l'école. L'école doit jouer un rôle central. Il ne s'agit pas de responsabiliser ou de faire porter sur les enseignants une responsabilité qui ne serait pas la leur, hein, excessive. Simplement, l'école doit jouer un rôle central parce que parfois, il n'y a que l'école de la République pour. C'est la seule occasion de transmettre des valeurs à ces jeunes qui ne seraient pas les valeurs ni de leur famille, ni celles transmises par le contexte religieux qui pourrait être le leur. Donc l'école joue un rôle extrêmement important. Voilà, moi je ne vous dis pas que dans certains établissements scolaires, dans certains collèges, notamment, qui sont de quartiers justement où il y a de véritables problèmes d'intégration, une population française très majoritairement, pour pas dire exclusivement, issue de l'immigration, bon, bah, on a un turnover des enseignants de 80% chaque année. C'est évidemment, c'est pas dans ces conditions-là qu'on réussira cette transmission des valeurs, qu'on aura. J'ai la réponse de l'Éducation nationale sur ces dans ces établissements-là, ça a été quoi? Ça a été moins d'élèves par classe pour les enseignants. Bon, soit c'était nécessaire. Pour leur donner des petites chances de pouvoir mieux communiquer, mieux échanger avec leurs élèves. Mais l'importance, c'est surtout que les enseignants soient plus présents dans ces établissements, qu'on leur donne les moyens d'être plus présents, de passer plus de temps, de dérouler plus d'années de leur carrière. Un élève qui rentre en sixième et qui va changer de prof chaque année, qui n'aura jamais l'occasion de grandir, d'avoir un parcours, d'échanger, etc., on lui donne assez peu de chances finalement de saisir toutes les opportunités que l'éducation nationale doit apporter à un jeune dans notre pays. Donc oui, il y a une question sur l'éducation, sur le contenu même des enseignements. Je crois qu'il y a beaucoup à voir dans nos programmes, dans nos programmes d'histoire, dans nos programmes de philosophie, pour que l'école soit lieu de la transmission des valeurs. Et puis il y a beaucoup d'autres choses, la politique de la ville, la politique de renouvellement urbain qu'on a menée, n'a pas été assez ciblée sur ces quartiers. Voilà, donc je pense qu'il y a une revue très complète de tout ce qu'on a fait. Et puis tout ça aussi interroge, doit interroger, mais interroge, je sais que c'est le cas, les musulmans, les Français musulmans, qui doivent d'eux-mêmes exprimer ce qui leur paraît compatible avec la République, avec les valeurs de la République, quelles sont ces valeurs qui font qu'aujourd'hui ils sont attachés à vivre en France et ce dont eux-mêmes ne veulent pas entendre parler. Et il faut favoriser ces formes d'expression qui aujourd'hui existent très, 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 de manière très fragile à travers le CFCM qui a le mérite d'exister, mais on le voit, c'est très insuffisant.
Le vivre ensemble, c'est encore possible? Il n'y a pas un fossé qui s'est creusé, justement?
Il y a à l'évidence un fossé, mais enfin, il y a pour les deux frères Kouachi, combien aussi de très beaux exemples d'intégration, d'assimilation à notre culture et de magnifiques réussites. Mais c'était aussi un vrai défi. On ne peut pas donner comme seul exemple d'intégration réussie aux jeunes Français d'ascendance immigrée Zinedine Zidane. Bon, c'était très bien, voilà, mais malheureusement, ils ne deviendront pas tous, je le regrette infiniment pour tous les petits garçons de 12-13 ans qui vont rêver un jour, mais ils ne deviendront pas tous Zinedine Zidane, et donc il est urgent d'avoir d'autres modèles. Moi, j'étais très heureux à une époque, par exemple, qu'on ait à Dreux un sous-préfet qui se prénomme Abdelkader. Voilà, c'était une très belle illustration que la République offrait d'autres chances. Et je crois il est urgent aussi que ces modèles d'une très belle intégration et d'une vraie assimilation à la nation française soient beaucoup plus mis en avant. C'est aussi quelque chose qui n'a pas été suffisamment fait dans notre pays. On a tous besoin d'exemples pour se former et d'exemples qui nous font rêver et qui nous donnent envie de suivre un chemin. Voilà, il y a plein de gens. Je suis très ami, par exemple, avec une jeune femme qui est la deuxième adjointe au maire de Dreux, Naïma Mfadel, qui était la seconde de liste de Gérard Hamel. Elle est professionnellement déléguée du préfet dans un département. Enfin, voilà une femme qui est pour moi un exemple magnifique d'intégration. Il faut donner des exemples de réussite à ces jeunes qui trop souvent doutent et malheureusement doutent parfois à juste titre, avec raison, comme beaucoup de Français doutent sur notre destin collectif, sur l'avenir de notre nation, parce que l'amour morosité économique est là et que je crois qu'effectivement le rêve français s'exprime très très mollement ces toutes dernières années.
Bon, nous on va faire une pause en musique et on se retrouve juste après sur Radio Grand Ciel.
And Julia Stone.
And you're listening to Radio Grand Ciel.
She said, "Hello, mister. Pleased to meet you. I wanna hold her. I wanna kiss her. Gonna take her for a ride on a PJ plane.
Retour dans votre émission Écho de ma commune. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Radio Grand Ciel. Nous sommes en compagnie d'Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loire et maire d'Annette. Et ensemble, nous décryptons l'actualité politique. Alors, lors de ses voeux, François Hollande est revenu sur des temps forts qui vont marquer 2015. On va s'arrêter quelques instants sur le pacte de responsabilité qui va entraîner notamment une diminution du prélèvement sur les entreprises de 6,5 milliards d'euros, la suppression aussi progressive d'un impôt sur la production. Ces mesures sont-elles des solutions suffisantes aujourd'hui pour lutter contre le chômage ?
Écoutez, on a besoin de solutions, ça c'est évident. Aujourd'hui, le gouvernement patine sur ces sujets-là. Il a créé depuis son élection un véritable choc de défiance. Hein. C'est-à-dire qu'après une crise qui était une crise mondiale, qui a touché très violemment tous les pays, hein, chute de la croissance en Allemagne de 5%, ce qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, chute de la production industrielle aux États-Unis, etc., etc. Depuis 2012, on est dans une crise qui est une crise française. Tous les pays ont retrouvé le chemin de la croissance, autour de nous notamment, notamment l'Espagne qui commence à rattraper son retard, etc. Il n'y a que la France qui reste engluée parce qu'il y a un choc de défiance qui est lié à des mesures contradictoires exprimées par le gouvernement. Vous évoquez 6 milliards, je ne sais pas combien on en est, parce qu'en réalité, le gouvernement utilise un mécanisme qui est celui du crédit d'impôt très souvent, ouais. Donc il s'agit d'estimation. En réalité, je ne sais pas si ce sera 6 milliards de cadeaux aux entreprises, entre guillemets. Il faut savoir que dans le même temps, il a sans doute ponctionné plus de 20 milliards aux entreprises. Donc il a créé une situation totalement tétanisante, il n'y a plus de confiance dans le pays, et aujourd'hui les entreprises, la situation est d'une gravité sans précédent, enfin tous les moteurs sont à l'arrêt, l'investissement des entreprises, mais aussi la consommation dans notre pays, c'est la première fois, je crois, dans notre histoire, depuis 2012, que le chiffre d'affaires de la grande distribution est à la baisse. C'est le seul truc qui marchait encore, c'est la grande des supermarchés. Même ça est en train de se retourner. Donc, tous les moteurs sont cassés parce qu'il y a eu... dès le début de l'élection de François Hollande, pour financer des promesses, une dépense à tout va, des créations de postes à l'éducation nationale, ce dispositif de contrat d'avenir qui coûtait extrêmement cher. Je pense que Hollande, de manière très cynique, croyait à la vieille théorie des cycles qu'on lui a enseignée à Sciences Po, et pensait que de toute façon tout ça allait très vite se retourner, d'où ces paris totalement invraisemblables, hein, que personne, qu'aucun économiste n'a compris, sur le retournement de la courbe de la croissance et du chômage d'ici la fin de l'année 2000, je sais plus si c'était 2013, ou après 2014. Bon, voilà, tout ça ne s'est pas produit parce que l'économie, c'est plus des cycles, l'économie c'est du réel, c'est des décisions qui sont prises pour permettre aux entreprises d'investir ou pas. Quand Nicolas Sarkozy décide en pleine crise de supprimer la taxe professionnelle qui pèse sur l'industrie en particulier, pour la remplacer par un impôt sur la valeur ajoutée qui va toucher davantage les banques, les assurances, toutes les entreprises de services, c'est une mesure très concrète pour l'industrie. Quand on crée le crédit impôt recherche, c'est un signal immédiat de nos entreprises investissées dans la recherche et développement, tout ça vous sera rendu. En parenthèse, ça peut être aussi simple que ça après, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais aujourd'hui, on est dans une politique qui est extrêmement, extrêmement confuse. Donc, c'est un pas en avant, un pas en arrière. En réalité, je crois que le président de la République ne sait plus à quel sein se vouer. Alors, donc, on a trouvé une nouvelle icône qui va tout révolutionner. Donc, c'est, en tout cas, il semble plaire à la presse. Donc c'est formidable, c'est Emmanuel Macron, le petit génie Macron, tout va être fabuleux. Bon, qu'est-ce que fait M. Macron en réalité? En désespoir de cause, comme le gouvernement n'a plus aucune idée pour relancer l'économie, eh bien, il est allé ressortir un rapport dans les cartons d'inspection générale des finances, qui était le vieux rapport qui avait déjà servi à la commission Attali, commandée par Nicolas Sarkozy il y a 6 ans maintenant. Et ils ont pris les dernières mesures, celles dont Sarkozy n'avait pas voulu, la déréglementation des notaires, donc la liberté d'installation pour quiconque veut être notaire où il voudra, quelques règles pour vaguement modifier les règles d'intervention d'autres professions juridiques, enfin tout ça.
Il y a le travail du dimanche tout aussi, ça, Nicolas Sarkozy en avait parlé.
Tout ça, pardon, sur les notaires, la déréglementation des professions de notaire, de commissaire-priseur, huissier, etc., ou même pharmacien, même si ça a été mis dans un autre texte, tout ça créera zéro valeur, quoi. Zéro croissance. On va au contraire d'ailleurs plutôt faire en sorte que tout ça coûtera plus cher à nos concitoyens que ça n'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de système de péréquation dans le prix des actes des notaires. Enfin voilà, donc c'est des mesures extrêmement pauvres. Je ne sais pas si vous avez lu le texte Macron, mais il y a ça qui n'apportera strictement rien en termes de croissance et d'activité. Ça, on peut en être totalement convaincu auparavant. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste. Vous avez effectivement un peu de quelques mesures de libéralisation du travail le dimanche, qu'il faut bien donner le sentiment qu'on va faire quelque chose. Donc on va passer de 5 dimanches à 12 dimanches. Enfin, c'est ce qui est mis sur la table. Si les 40 députés rétractaires réfractaires à gauche demandent que ce ne soit plus que 8, on reviendra à 8. Enfin, tout ça est une espèce de bidouillage juste pour occuper les médias et faire croire qu'il y a du débat et qu'on est en train de prendre des mesures révolutionnaires. Là aussi, c'est pas passer de 4 dimanches à 8 ou à 12 qui changera quelque chose à l'activité économique dans notre pays. Le reste sont des mesures totalement anecdotiques. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le décalage totalement incroyable qu'on observe entre la réalité des dispositions qui sont dans le texte de Macron et ce que nous ont dit la presse, qui semble en faire véritablement la révolution économique en marche. Quoi. Voilà, ce texte ne changera quasiment rien. Elle va faire du tort à de nombreuses professions juridiques. Elle va sans doute ruiner quelques notaires dans notre pays, quelques jeunes notaires notamment, qui sont endettés pour acheter cher leurs études, avec qui on expliquera que demain, finalement, elle n'aura plus grand-chose. Voilà, mais en dehors de tout ça, je crois que ça ne changera pas grand-chose. Les mesures sur la liberté d'installation la déréglementation d'installation des pharmacies, c'est aussi quelque chose de totalement tragique. La pharmacie, c'est aujourd'hui le seul élément d'accès aux soins qui fonctionne dans notre pays. L'hôpital est un machin en ruine, qui ne fonctionne plus que dans les très très grandes villes où ils arrivent à faire un peu de chiffres, mais autrement, on sait que l'hôpital public aujourd'hui est un système totalement à bout de souffle dans son modèle économique. La médecine de ville pose problème, on n'a plus de médecins en milieu rural. Le seul truc qui marche, c'est le réseau des pharmaciens qui sont présents partout sur le territoire. Eh bien, le petit génie Macron avait décidé de casser ça. C'est formidable, applaudissons et tout va très bien. Voilà. Je crois que non, malheureusement, il y a dans ce texte que vraiment très 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 peu de mesures qui vont dans le bon sens. Oui, il y a quelques mesures. Alors on revient un peu sur les complications de la loi Duflot votée il y a un an et demi. C'est formidable. Enfin, s'il y a un an et demi, on n'avait pas voté d'ânerie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce serait beaucoup mieux. Quoi.
Aujourd'hui, les politiques, vous l'avez dit, la France a du mal à avoir une croissance positive. Et ça l'est dans d'autres pays. Il y a eu une reprise aux États-Unis, sur certains pays européens. Les politiques aujourd'hui ont des schémas dépassés ou ils sont frileux de prendre des décisions fortes?
Oui, je crois que la responsabilité, pardon, mais elle est très partagée entre les politiques et ceux qui les élisent, ce qu'on appelle les Français, les électeurs. Les électeurs choisissent. Et donc, en l'occurrence, le 6 mai 2012, si je m'abuse, les Français ont choisi quelqu'un qui avait promis de supprimer les heures supplémentaires, qui avait promis comme ça un certain nombre, contre le pouvoir d'achat, et qui avait promis un certain nombre de choses, qui avait dit que son ennemi c'était la finance. Faut pas s'étonner, enfin il faut juste reprendre le programme économique de François Hollande pour comprendre pourquoi aujourd'hui notre pays est dans la mouise économiquement. C'est pas l'échec des politiques, de vous le dire, mais regardez la situation économique de la France pendant la crise. La France est un des pays qui a le mieux traversé la crise économique parce que justement les politiques ont été extrêmement réactifs. Le président Sarkozy a été extrêmement réactif pour venir en soutien à l'industrie avec immédiatement des mesures fiscales très courageuses comme la suppression de la taxe professionnelle, qui est un signal de soutien à l'industrie immédiat, avec une politique de filière économique comme les pôles de compétitivité, une politique de relance par l'investissement qui a été aussi qui a donné des formidables chantiers. On a une politique très audacieuse de prêts pour sauver l'industrie automobile, en disant l'industrie automobile c'est 10% de l'emploi en France, donc on n'a pas le droit de les laisser se planter. Il faut tout de suite trouver des solutions qui ont été notamment des prêts bancaires très importants, etc. Une politique de soutien à l'immobilier pendant la crise. Pendant la crise, on a fait en sorte que, sur les bailleurs sociaux, puisqu'on se plaignait qu'il n'y ait pas assez de logement social, que ce soit les bailleurs sociaux qui rachètent tout ce que les promoteurs avaient sur les bras, avaient en chantier pour ne pas se retrouver avec justement une crise façon Espagne, etc. Donc il y a eu des mesures extrêmement réactives qui ont fait en sorte que notre pays plonge moins que les autres. Oui, il y a eu des difficultés, mais ça n'a pas la crise n'a pas été de la même violence en France que dans beaucoup d'autres pays, parce qu'il y a eu cette réactivité des politiques. En mai 2012, les Français ont fait un choix totalement...
Mais est-ce que ce n'était pas justement de la part des Français un certain espoir de sortir de cette crise, mis à part...
Moi, je les invite à relire le programme de François Hollande. Non, je pense que, d'ailleurs, si on s'amuse à analyser précisément où était l'électorat de François Hollande, je ne suis pas sûr que ce soit les motivations économiques qui les aient principalement motivées. Quoi.
On va revenir, en tout cas, à ce qui nous attend et ce qui attend François Hollande et son gouvernement. Il y a un fait marquant aussi, ce sera en décembre prochain, la conférence internationale sur le climat. Hollande parle d'une conférence cruciale et souhaite un accord ambitieux et contraignant. C'est encore possible selon vous ?
Oui, alors écoutez, c'est un sujet que je connais un tout petit peu pour avoir fait partie de la délégation française lors de la dernière conférence climat-énergie de l'ONU à Doha en 2013. Donc le sommet qui précédait cette conférence donc de Paris. Voilà. Il faut savoir que pourquoi Paris, puisque personne d'autre ne voulait l'organiser. Donc Hollande s'est dit tiens, bah, moi ça me donnera du grain à moudre. Donc on organise ce sommet, c'est formidable, ça va embouteiller Paris pendant 8 jours ou 15 jours, c'est très bien. Bon, on est sur des sujets évidemment extrêmement compliqués. Je ne sais pas à quel accord on arrivera. Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que on est sur une diplomatie très très particulière et la France se retrouve là aussi un peu en décalage, comme souvent entre ses beaux discours et la réalité du monde. En fait, la France est dans une attitude où on a commencé par vouloir montrer l'exemple. Certes, la réduction des gaz à effet de serre est une nécessité. Les objectifs que la France s'est fixés, les objectifs du protocole de Kyoto, tout ça évidemment sont des objectifs absolument nécessaires et personne ne les conteste. Mais la France a dit en clair, moi je vais avancer toute seule et plus vite que les autres, je vais donner des leçons au monde comme toujours. Ça a coûté très cher et ça coûte très cher toujours, à la fois au budget de l'État et puis aussi à nos industriels, parce qu'on aura créé de nombreuses contraintes et ça coûte très cher aux Français, parce que notamment le prix de l'énergie augmente à cause de ça, avec notamment l'obligation de rachat qui a été fait à EDF, de racheter l'économie, les énergies vertes, voilà, et donc qui est payé par tous les Français, qui donc a concouru à plomber le pouvoir d'achat des Français. La conviction que j'ai acquise en participant à la convention de Doha, c'est qu'en réalité, sur ces sujets-là, il y a un deal entre les deux premières économies mondiales, qui sont l'économie chinoise et l'économie américaine, qui font en réalité beaucoup moins de discours que nous, mais infiniment plus d'efforts de recherche que nous sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, Chinois et Américains, pour des raisons un petit peu diverses, traînent des pieds sur ce sujet, dans l'attente de pouvoir être prêts. Et ce dont on peut être sûr, c'est que le jour où les économies chinoises et américaines seront prêtes à s'adapter, où ils auront des produits qui seront prêts à envahir des produits propres en énergie, prêts à envahir le marché mondial, et bien ce jour-là, ils n'hésiteront pas à faire un accord contraignant.
Mais ce jour-là, ce ne sera pas trop tard.
Et ce jour-là, ce sera trop tard pour l'industrie française pour s'adapter, parce que l'industrie française aura été pénalisée par des mesures que la France aura prises toute seule dans son coin, qui auront coûté très cher, qui auront pénalisé notre industrie et qui feront qu'on le paiera beaucoup plus cher. Ce jour-là, ce sera pas trop tard. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas ce que fait la France toute seule dans son coin, malheureusement, qui a une importance autre que celle d'une certaine exemplarité. Donc voilà, il y a la part des discours. Le plus important, ce que je veux dire en opposant un peu l'espèce de stratégie française en avance, la fleur écologiste au fusil et les principales économies du monde, c'est que tout le monde, je crois, va en réalité sur la même voie. Prenons garde sur ce sujet-là de ne pas être juste dans l'incantation et juste naïf, et de ne pas pour le coup nous laisser imposer nous laisser dépasser, parce que le jour où la Chine et les États-Unis y viendront, eux seront beaucoup plus prêts en réalité que nous le sommes. Ça veut dire qu'il faut faire plus en réalité, non pas en imposant des normes aux citoyens, non pas en faisant payer plus cher l'énergie à nos concitoyens, mais notamment dans les chers, dans des efforts de recherche et développement sur ces sujets-là.
En quelques mots maintenant, pour terminer cette interview, il va y avoir deux élections qui vont être scrutées par François Hollande et son gouvernement. Les élections départementales fin mars, les régionales en décembre. Vous êtes plutôt confiant à l'UMP ?
Écoutez, une élection, c'est une élection. On n'est jamais ni confiant, ni pessimiste, etc. Enfin, s'agissant des élections cantonales, je crois qu'il y a d'abord un premier message à adresser de mon point de vue, qui est quand même celui de la protestation contre le mauvais sort fait par ce gouvernement aux territoires ruraux. Là aussi, pardon, mais l'élection de François Hollande s'est faite sur des promesses de soutien au monde rural qui étaient mirobolantes. La réalité, c'est exactement le contraire de ce qu'il a promis, c'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire, depuis son élection, les dotations aux collectivités locales baissent. Et quand je dis aux collectivités locales, c'est en réalité au monde rural, puisque dans le monde urbain, il y a des dotations spécifiques qui font qu'en réalité, ça ne baisse pas. Et puis surtout, on a, avec un nouveau découpage des cantons, totalement écrasé la représentation du monde rural, là où il y avait quatre cantons, par exemple, à La Ferté-Vidame, Senonche, Mourazol et Châteauneuf. Aujourd'hui, il n'y en aura plus qu'un. Ça veut dire que la voix de ces territoires ruraux va être à l'avenir totalement écrasée. C'est une vraie trahison par rapport à ce qu'a été le discours de campagne du candidat Hollande, rien que pour cette raison, mais pour beaucoup d'autres. Évidemment, il y aura sans doute un vote sanction très fort à l'égard du président.
Bon, en tout cas, nous, on suivra ça. Merci beaucoup, Olivier Marleix, pour ces éclairages.
Merci.
Sur Radio Grand Ciel. Je rappelle donc que vous êtes député d'Eure-et-Loir et maire d'Annette. On aura l'occasion, j'espère, de vous retrouver pour parler du livre. Alors, vous viendrez ?
Avec plaisir.
Bon, on prendra rendez-vous. C'était donc Écho de ma commune, une émission partenariat avec le Conseil général d'Eure-et-Loir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à l'écoute de Radio Grand Ciel.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais sentier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Comme certitude collée à trois fils, liée à trois fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, que tu respires, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station.
Radio Grand Ciel.
Les sentiments se tassent. Quel est ce mystère? As-tu trouvé la force après avoir mordu la terre de revenir à quai sans aucun goût amer, les bras chargés d'histoires anciennes, de rêves échoués au bord des lèvres. Non. Un peu d'air, rien ne t'effraie. Tu connais la rengaine. Tout passe, ce qui reste fracasse. Comme l'on s'étreint, comme l'on se perd, des navires. Jamais la tête, ne courbe jamais les chines. Tu t'entêtes à faire mine, coureur de fond dans les tranchées arides. Non dit, non dit, non dit non. Rien ne transpire seul. Non dit, non dit, non dit non. Comme on se traîne. L'on se perd des navires.
Salut, c'est Gaspard Royan et vous écoutez Radio Grand Ciel.
I was born and raised in music. I remember the music. It's lullaby, it's word. Every song I ever heard sounded like a world to me. Knew what I was meant to be. Grew up in a town where nobody cared for sound. You clench your fists and dream. Someone feels the same. Knew I was far from home. Didn't know where I belong. Oh, someday we'll go back to where we came. But for now, waiting in vain. Our poets die before they learn to write. Still our poets die before they're.
century go to hell. It was all supposed to crash. We didn't have a plan. Morning came just like a joke. Trying hard not to choke.